Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Les escales d'un jour dans le monde ce soir vous emmènent en Colombie. Les FARC sont rentrés dans le rang, ça on le sait, le pape est passé, d'accord. Mais maintenant, pour les Colombiens, vous verrez qu'ils comptent leurs disparus, leurs otages jamais revenus. L'actu en série, c'est un retour aux épisodes précédents. Et tiens, on vous donne des nouvelles de Juan Carlos, figurez-vous. Le vrai du faux de l'Europe, ce sera Delphine Simon, comme tous les jeudis, 18h55. L'édito du journal Le Monde, Corinne Lenne, depuis San Francisco, dans une Californie qui sert désormais de refuge aux dreamers, les jeunes illégaux. Mais tout de suite, quand un pays entier devient une prison pour journalistes et que ce pays est à nos portes, nous allons en Turquie.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
Depuis un certain temps, la Turquie s'éloigne à pas de géant de l'Union européenne. La place des journalistes est dans les rédactions, là où règne la liberté d'expression. Leur place n'est pas dans les prisons.
Il a l'impression d'être un zombie. Toutes les journées sont identiques, c'est-à-dire qu'il ne peut strictement rien faire dans sa cellule, à part attendre les 5 minutes de promenade par jour dans une cour fermée.
C'est Jean-Claude Juncker que vous avez entendu d'abord, et c'était hier à Strasbourg, et puis le père de Lou Bureau qu'on a entendu ce matin sur Inter chez Nicolas Demorand. Lou Bureau enfermé donc en Turquie depuis maintenant 50 jours. Des rassemblements sont prévus samedi à Nantes, à Bruxelles, pour sa libération. Et puis Jean-Yves Le Drian surtout est en Turquie aujourd'hui ou demain. Il plaidera la cause du jeune journaliste, celle de la France aussi, mais on sait qu'il n'est pas le premier à le faire. Bonsoir Christophe Deloire.
Bonsoir.
Vous êtes le patron de Reporters sans frontières. Bonsoir Ahmed Insel, pardon.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'université, vous écrivez notamment dans Koumouriette, on aura l'occasion évidemment d'y revenir aussi, puisque 17 de journalistes et collaborateurs sont en procès en ce moment en Turquie de ce journal. Vous avez écrit « La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire ». Et c'est aux éditions La Découverte. Christophe Deloire, je voudrais commencer avec vous. On entendait les conditions de détention de Lou Bureau racontées par son père, qui sont dures pour le jeune homme. Il peut lui parler. Est-ce qu'il a quand même des contacts réguliers avec l'extérieur, ou est-ce que c'est ça, c'est 5 minutes toutes les 2 semaines avec son père?
Alors, comme le dit le père de Lou Bureau, et dans l'absolu, les conditions de détention en soi ne sont pas déplorables. Et d'ailleurs, les prisons turques, il faut le dire, ne relèvent pas toutes du mythe Midnight Express, du film. On n'est pas là-dedans. En revanche, Lou Bureau, c'est un jeune journaliste, il a 27 ans. Il est en détention depuis maintenant un mois et demi pour un prétexte totalement fallacieux, accusé d'un crime extrêmement grave, puisqu'accusé d'appartenance à un groupe terroriste. Des Français journalistes précédemment détenus étaient accusés, avec une accusation un peu plus légère, même si elle était déjà gravissime, de propagande terroriste. Là, c'est appartenance à une organisation terroriste. Et dans un isolement presque total, puisqu'il parvient à parler à sa famille au téléphone une fois tous les 15 jours, avec des cartes de téléphone. Il peut parler avec 2 cartes de téléphone qui durent chacune 2 minutes, ça fait 4 minutes. Et il a reçu 2 visites consulaires. Donc sa situation humaine est extrêmement difficile et sa situation juridique est extrêmement périlleuse. Et on voit malheureusement qu'à l'encontre des journalistes étrangers, on reviendra toujours tout à l'heure sur journalistes turcs qui sont malheureusement aux premières loges et dans les premières cellules de la répression.
Plus de 160, on va déjà donner le chiffre, plus de 160, c'est beaucoup.
Les procédures s'aggravent. Là, je parle s'agissant des journalistes français. On était d'abord dans des gardes à vue, puis ensuite on est passé à des rétentions administratives, et puis maintenant c'est une procédure judiciaire. Et avec des infractions reprochées qui sont également de plus en plus graves.
Donc,
c'est vraiment une volonté d'intimider les journalistes et d'exercer un chantage sur l'Europe.
Juste une question quand même. Vous disiez quelques petites visites consulaires, mais c'est légal ou pas? Normalement, la visite consulaire...
Oui, il y a un droit aux visites consulaires.
Alors, bien sûr, ça c'est obligatoire, mais d'en avoir si peu, par exemple, est-ce qu'il devrait y en avoir plus?
Une fois par semaine, ils ont le droit d'une visite consulaire ou avocat.
D'accord.
C'est du droit international très strict, mais que la Turquie ne respecte pas toujours. Dans l'affaire Mathias Depardon, qui était le photographe qui avait été détenu un mois, pendant au moins 15 jours, les visites consulaires avaient été refusées, c'est-à-dire que c'était un droit prévu par le droit international, et... malheureusement, ça n'est pas le premier droit prévu par le droit international.
Lui, il était mis dans le camp de retention. C'était en plus particulier.
Oui, mais néanmoins, il avait absolument droit aux visites consulaires et c'était refusé aux autorités françaises.
Et les autorités judiciaires turques, alors à part effectivement cette équivalence pas encore mise en examen, mais cette accusation en tout cas d'appartenance à un organisme terroriste, les autorités judiciaires turques, elles disent des choses, elles parlent, elles permettent aux avocats d'avancer ou pas du tout?
Hier, il y a eu du nouveau, puisque le procureur a remis son acte d'accusation. Et l'acte d'accusation, il permet de savoir sur quoi reposent les infractions reprochées. Et ça repousse, c'est un dossier qui, comme malheureusement de très nombreux dossiers, parce que de très loin on peut se dire, mais en Turquie, il n'y a pas de fumée sans feu.
On va rappeler ce que c'est, hein, ce sont des photos de lui avec des combattants syriens qui d'ailleurs datent de
2013. C'est sur des entretiens, oui, d'il y a 4 ans, avec des militants kurdes.
De Syrie.
C'est de Syrie.
De Syrie. Et qui lui sont reprochés, le PKK étant considéré par Ankara, mais aussi par l'Union Européenne, comme un mouvement terroriste. Mais là, Loubureau, lui, il les a pas fréquentés pour le plaisir de la conversation. Il est allé les interviewer, leur poser des questions, ce qui est simplement le rôle d'un journaliste. Et pour ça, il est aujourd'hui en détention. Alors, peut-être qu'une partie du public peut se dire, bon, mais ça, c'est des problèmes pour les journalistes, c'est un intérêt corporatiste, mais... Quand les journalistes peuvent plus faire ça, c'est des zones entières en Turquie, et qui est une zone qui est extrêmement importante, y compris pour nous, Européens, quand il y a une déstabilisation, c'est extrêmement puissant. Là où il est en détention, Şırnak, c'est une ville dont le centre-ville a quasiment été rasé. Et c'est des zones entières qui échappent au regard journalistique et où tout peut être perpétré.
Ahmet İnsel, Jean-Yves Le Drian va plaider la cause de Loubureau à Ankara. Emmanuel Macron l'avait fait avant. Oui. François Hollande l'a fait aussi plus ou moins en sous-main. Pourquoi est-ce qu'Erdogan écouterait Jean-Yves Le Drian? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle il le ferait?
Tayyip Erdogan a un comportement un peu d'un droit à l'ancienne, je dirais un peu moyenâgeuse, c'est-à-dire il a presque envie d'utiliser les journalistes en rétention, comme a dit Christophe Deloire, d'abord pour décourager d'autres de venir et de faire des investigations dans ces régions où l'état de droit est totalement suspendu, mais en même temps faire du chantage, c'est-à-dire que pas peut-être vis-à-vis de la France, mais il y a des journalistes aussi germano-turcs en détention. Et il y a récemment, dans un décret-loi, ils ont glissé une petite phrase comme quoi, avec l'accord du Premier ministre, je crois, ou ministre de la Justice, et avec l'accord du Président de la République, on peut échanger des personnes détenues étrangères avec leur pays d'origine. Échanger. C'est-à-dire que là, on est dans l'image de espion contre espion, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi cette pression, ce chantage, cette prise d'otage, d'une certaine manière, on peut dire, vis-à-vis des puissances européennes.
Parce que c'est
et
ça.
Plus particulièrement l'Allemagne et par ricochet la France.
L'Allemagne avec laquelle les relations, effectivement, sont particulièrement mauvaises. Mais nos relations à nous, avec Erdogan en ce moment, elles ressemblent à quoi?
Il n'y a pas de tension particulière. C'est l'Allemagne, la Hollande qui attire beaucoup plus les flèches et les injures de Tayyip Erdogan. Pour la France, je crois que la Turquie essaie de garder cette relation bilatérale capable de lui donner une possibilité d'ouverture vers l'Europe. Mais ce qui est grave, c'est que non seulement c'est ces journalistes étrangers qui... Au maximum, on pourrait simplement les expulser. Voilà. Dans le cas de Bureau, moi, je crains beaucoup que le Premier ministre et le Président de la République disent « Oui, mais c'est une affaire de la justice est indépendante, etc. etc. » Ce qui est la réponse traditionnelle de tous les régimes dictatoriaux d'une certaine manière. Il y a, dans l'accusation, c'est quelque chose qui est devenu maintenant monnaie courante, c'est le concept de terrorisme. C'est que à partir du moment où vous manifestez des sympathies à des populations réprimées, et manifestement Loubureau avait envoyé un tweet où il manifestait son empathie aux populations kurdes sous les bombes turques. C'est une manifestation d'empathie. À partir de ce moment-là, vous êtes dans une logique de propagande terroriste. Et le mot terroriste est devenu vraiment l'accusation à tout faire. C'est-à-dire des terroristes, nous avons des terroristes qui n'ont jamais vu d'armes dans leur vie, etc., etc.
Mais ça veut dire que s'il le garde, lui, comme effectivement peut-être les turco-allemands, etc., on le disait effectivement, c'est probablement pour peser sur l'Europe, mais s'il le libère, est-ce qu'il y a contrepartie? Et je parle même pas d'argent. Quel genre de contrepartie diplomatique, quel jeu il peut y avoir pour laisser sortir Loubureau, à votre avis?
Alors, ce qui est très important, c'est que les journalistes soient pas des monnaies d'échange.
On est d'accord.
C'est...
Sur le principe, on est d'accord.
Des principes. Alors, évidemment que ça n'est pas des autorités françaises, et l'affaire est prise en charge au plus haut niveau, puisque Le président de la République a déjà parlé à deux reprises au président turc. Il devrait le croiser la semaine prochaine, lundi ou mardi, à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Que là, le ministre des Affaires étrangères est en Turquie, a prévu d'en parler. J'ai rencontré moi Jean-Yves Le Drian hier soir. Il a vraiment prévu d'en parler de manière très ferme lors de ces entretiens. Mais le verrou, la clé du verrou, ce n'est pas les autorités françaises qui l'ont. Très clairement, je dirais, ce n'est même pas le magistrat ou le gardien de prison. À chaque fois qu'on s'adresse à des interlocuteurs turcs, qui font un geste du bras, le doigt pointé vers le haut, sous-entendu, regardez le grand chef.
Le fait du prince.
Erdogan. Et ce sera une décision d'Erdogan.
Et Tayyip Erdogan, en plus, contrairement à la plupart des hommes puissants de ce monde, il ne se retient pas. Il parle ouvertement. Il est comme un procureur général de toute la Turquie. C'est-à-dire qu'il accuse. Et à partir de ces accusations prononcées par Tayyip Erdogan, les procureurs montent des procès. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le journaliste germano-turc Deniz Elek. Il a accusé d'espionnage alors que personne n'avait encore accusé d'espionnage. Maintenant, on essaye de remonter un dossier d'espionnage. Dans le cas de Bureau, je ne sais pas si lui, Tayyip Erdogan, a ouvertement parlé à son sujet, mais à partir du moment où lui, il a désigné le coupable et sa culpabilité, alors là, le procureur, le juge des libertés, etc., sont totalement tétanisés.
Mais je voudrais revenir au levier, parce que nous ayons besoin de la Turquie, et notamment parce qu'on a passé des accords avec eux autour des migrants et d'autres questions qui sont lourdes de ce type-là, on a bien compris. Mais est-ce que lui a besoin de nous? En gros, est-ce qu'il peut nous faire mariner encore extrêmement longtemps?
Lui, il a évidemment des arguments à faire valoir, qui sont la coopération dans la lutte contre le djihadisme, le contrôle des migrants. Et de son point de vue, c'est des arguments de poids. À l'inverse, qu'est-ce qu'on peut faire pour ébranler aujourd'hui Erdogan, qui manifestement n'en a pas grand-chose à faire d'être traité de dictateur?
C'était le sens de ma question.
De plus en plus. Donc la stratégie qu'on appelle dite du naming and shaming, dénoncer et faire honte, on peut dire qu'elle marche assez peu sur lui. Néanmoins, il a quand même une faiblesse, c'est que ce qui a fait Erdogan, ce qui le rend si populaire en Turquie, c'est la croissance économique.
Oui.
Et que une mauvaise image du pays, et ça pèse quand même beaucoup sur l'image du pays, ce qui est en train de se passer, s'agissant des journalistes, mais s'agissant des avocats, s'agissant de magistrats,
des fonctionnaires,
des magistrats des de la Cour suprême qui osaient lui résister, mais pas lui résister par sentiment d'opposition, juste parce que c'était des magistrats dignes de ce nom qui prenaient des décisions fondées sur le droit, ils se retrouvaient eux-mêmes en détention. Donc, cette image qui commence à être déplorable, non pas de la Turquie, de ses paysages et de ses plages, mais du régime, elle finira par peser. Elle finira par peser sur les investissements. Et Erdogan deviendra un risque pour le pays lui-même. Et ça, je pense que c'est pour ça que, à long terme, si la situation devait perdurer, il faudra s'interroger sur un boycott de la Turquie, des entreprises, des plages. Enfin, c'est il faut arriver à aller tirer sur des talons d'Achille.
Actuellement, il y a une campagne, par exemple, la réunion annuelle, biannuelle du Bureau international du travail devrait se tenir en Turquie, et tous les syndicats internationaux sont en train d'appeler un boycott pour ne pas couvrir ce régime. Mais effectivement, ce qui est très important, c'est que Tayyip Erdogan est devenu le premier facteur d'instabilité en Turquie. Et deuxièmement, cette instabilité est liée surtout au règne de l'arbitraire. Et l'arbitraire n'est pas simplement sur les droits de l'homme, mais aussi sur les droits économiques, sur l'ensemble des droits. Et donc, du coup, les étrangers, je ne sais pas, mais nous, en Turquie, nous ne voyons pas totalement où, qu'est-ce qu'on peut devenir dans un an. Donc, du coup, cet arbitraire, évidemment, était très tétanisant sur le moyen terme.
Je ne vais pas vous laisser partir, Ahmet İnsel, sans vous ne parliez de vos collègues de Cumhuriyet, qui sont donc en ce moment, ils sont 17 à être en procès. On suit ce procès qui est complètement ubuesque. La question derrière,
ils sont 5 en détention toujours.
Ah voilà, et
toujours. Depuis 9 mois.
Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans les journaux turcs d'une forme d'opposition? Est-ce que ce genre de procès-là a fait que tout le monde a édulcoré son discours ou au contraire? Qu'est-ce qui reste?
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en Turquie, il y a une résistance, il y a un espace de liberté que, malgré tout, on arrive à préserver. Le journal Cumhuriyet, malgré ses détentions, ses procès, continue à apparaître avec la même ligne politique, ni plus ni moins, et d'autres journaux d'ailleurs, des journaux d'opposition, Birgün, Evrensel, etc. Bien sûr, ce sont des journaux limités, mais il y a en Turquie une moitié de la Turquie est contre Erdogan, et la moitié de la Turquie est dans l'adoration d'Erdogan et c'est une confrontation, quasiment une sorte de guerre civile symbolique que nous vivons.
Et on en reparlera évidemment dans Un jour dans le monde. On suit évidemment ce qui se passe avec Jean-Yves Le Drian et Lou Bureau potentiellement. Merci beaucoup Ahmed Intsel et merci à vous aussi Christophe Veloir de votre passage dans Un jour dans le monde.
Au revoir.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde nous emmène en Colombie et vous découvrirez pourquoi. Olivier Poujade, de l'actu en série, retour aux épisodes précédents. Comme tous les jeudis, vous nous donnez des nouvelles d'un ancien roi un peu volage.
Les vieux dossiers d'un ancien roi polisson, Fabienne Juan Carlos.
Et on verra ça donc dans un instant. Le vrai du faux de l'Europe aussi et Delphine Simon à suivre. Voici Tina Riwen dans Un jour dans le monde. Sur France Inter et voici Florence Paracuelos. Sous les radars, l'actualité internationale que vous avez ratée, mais que Florence Paracuelos a bien repéré. Florence, vous nous emmenez d'abord au Togo, qui se soulève depuis un mois.
Et les manifestations s'enchaînent, Fabienne, dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, contre le président Faure Gnassingbé, à la tête du pays depuis 2005. Il a pris la succession de son père, le terrifiant général Eyadema, 50 ans de pouvoir à eux deux. Alors les Togolais descendent par centaines de milliers dans les rues pour réclamer sa démission et la limitation du nombre de mandats présidentielle, emmenée par tous les partis d'opposition et notamment par Jean-Pierre Fabre.
Dans les années 90, il y avait le père. Et aujourd'hui, nous avons le fils. Et les populations supportent difficilement cette succession dynastique et surtout les ruses, les subterfuges que M. Faure Gnassingbé fait tous les jours pour rester indéfiniment au pouvoir.
Jean-Pierre Fabre, un des leaders de l'opposition, interviewé par France 24 au cours de la dernière manifestation monstre à Lomé jeudi dernier. Le mouvement a commencé le 19 août avec des rassemblements dans tout le pays, dispersés à balles réelles, bilan 2 morts, internet coupé pendant plusieurs jours. Ça n'a pas calmé la contestation. Alors depuis la semaine dernière, le pouvoir semblait tendre la main. Une réforme de la constitution doit être examinée à partir de demain à l'Assemblée, mais elle n'est pas rétroactive cette réforme. ce qui veut dire que Faure Gnassingbé pourrait encore se représenter deux fois à la présidentielle. La colère de l'opposition est intacte. Elle appelle à de nouvelles manifestations la semaine prochaine.
Et direction maintenant le tarmac de l'aéroport de Fortaleza, c'est au Brésil.
Et là-bas, ça fait trois semaines qu'un vieil avion de ligne est démonté pour être envoyé en Allemagne, où il doit finir dans un musée. Alors pour savoir ce que cet avion a de particulier, il faut remonter au 13 octobre 1977.
Jeudi 13h30, le Boeing 737 Palma-Francfort de la Lufthansa, avec à bord 86 passagers et 5 hommes d'équipage, est détourné de sa route au-dessus de la Côte d'Azur. En début d'après-midi, l'appareil se pose à Rome pour faire le plein. Un pirate, disant s'appeler capitaine Walter Mohamed...
Ce sera le début d'un périple qui va durer 5 jours. Les ravisseurs sont des membres du FPLP, le Front de Libération de la Palestine. Ils veulent la libération de membres de la bande Abadère ou la RAF, la fraction armée rouge en Allemagne. Sinon, ils tueront tous les otages. L'avis du patron des patrons allemands, Hans-Martin Schleyer, enlevé par la RAF, est aussi dans la balance. Alors pendant 5 jours, le Boeing ira d'aéroport en aéroport. Larnaca, Bahreïn, Dubaï, Aden, puis Mogadiscio, où les unités d'élite allemandes donneront l'assaut. Entre-temps, le pilote a été abattu. Hans-Martin Schleyer le sera le lendemain par la bande Abadère. Quant à l'avion, cet avion, il va ensuite reprendre du service, comme si de rien n'était, dans différentes compagnies, avant de finir à la TAF, une compagnie régionale brésilienne, et avant que l'Allemagne ne le retrouve et décide de le rapatrier pour l'exposer. Son histoire est très contemporaine dans ces temps où un nouveau terrorisme essaye d'ébranler notre vivre ensemble, justifie le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel. Ne nous laissons pas abattre, c'est le message, selon lui, de cet avion.
Allez, pour finir, Florence, vous allez nous parler d'une vieille dame.
Sans doute reconnaissez-vous, Fabienne,
oui,
la musique d'Autour n'importe le vent.
Attendez.
Mais est-ce pour que qui vous savez, est-ce que vous savez que la seule survivante du film, c'est Olivia de Havilland, 101 ans, actrice vedette des années 30, 40, 50, mondialement connue comme Mélanie, second rôle du film mythique de 1939.
Gone with the Wind has captured the imagination and acclaim of the entire world.
Aujourd'hui, la doyenne
Mélanie,
d'Hollywood,
d'ailleurs, souvenez-vous,
est en colère. Elle a porté plainte, la doyenne d'Hollywood, contre la chaîne FX et sa série Feud, nommée 18 fois aux Emmy Awards, qui auront lieu dans 3 jours.
There was never a rivalry like theirs. For over half a century, they hated each other, and we loved them.
Feud, où les relations tumultueuses entre Bette Davis, incarnée par Susan Sarandon, et John Fontaine, jouée par Jessica Lange, elles se sont tellement détestées et nous les avons tant aimées, dit la série. John Fontaine,
il paraît que c'est génial,
qui était la sœur d'Olivia de Havilland, Catherine Zeta-Jones à l'écran. La série sera diffusée sur Canal+, effectivement, elle a l'air formidable, mais la centenaire, bon pied, bon oeil, n'apprécie pas du tout la manière dont elle est représentée. Elle dit qu'on ne lui a pas demandé son avis, elle dit qu'elle n'a pas reçu d'argent pour l'utilisation de son nom et de son identité. Olivia de Havilland, qui vit en France depuis 60 ans, attend un procès de pied ferme. Et selon son avocate, elle pourrait même faire le déplacement à Los Angeles pour l'occasion, ne rien lâcher, même à 101 ans.
Mais pourquoi pas un rôle dans la série pour Olivia de Havilland, qui serait l'arrière-arrière-grand-mère d'elle-même.
Oui.
Florence Moracuelos, merci.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes en Colombie. Et pourquoi en Colombie? Vous le savez, les FARC sont entrés dans le rang, 7000 combattants qui sont devenus un parti, le pape est venu sceller cette réconciliation difficile, c'était la semaine dernière, mais une fois ces cérémonies et ces discours passés, quand on allume la radio à Bogota, eh bien voici ce qu'on entend.
Attention, en Colombie, au cours des 45 dernières années, un des crimes les plus atroces de l'histoire récente du monde s'est produit. Plus de 60 630 personnes ont été victimes de disparitions forcées dans une démocratie.
Marie-Ève Deteuf, bien le bonsoir, c'est avec vous que nous allons voyager en Colombie dans quelques instants. Ces disparus, anciens otages des FARC notamment, dont on n'a aucune nouvelle, rendent évidemment cette grande réconciliation plutôt très compliquée. À titre d'exemple, les disparus argentins les plus médiatisés, il y en a eu 10 000. 3 500 personnes sous Pinochet au Chili, là vous l'avez entendu, on parle de 60 000 personnes. Et comment les oublier?
Sur la place de Las Nieves, dans le centre de Bogota, dimanche, trois musiciens se préparent sous l'œil indifférent des passants. Des dizaines de photos ont été posées sur le trottoir. Sous chacune d'elles, un nom, une date. Felipe Jaramillo est venu comme tous les ans se recueillir.
Il y a la photo de ma sœur ici. Elle est partie de la maison un jour et elle n'est plus revenue. On l'a cherchée partout. Elle était une militante de gauche, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Elle avait 25 ans.
C'était en 1982. Felipe n'a jamais pu faire son deuil.
C'est très dur parce qu'on ne sait pas si elle est vivante ou pas. À chaque fois qu'on passe une rue, on voit une femme, on regarde le visage pour voir si c'est elle. On a toujours l'espoir qu'elle réapparaisse. Donc il n'y a pas un vrai deuil.
Gloria Gomez est la présidente de l'Association des familles de détenus et de disparus qui réunit les proches des victimes de l'État ou des agents de l'État. Elle explique.
À la fin des années 70, début des années 80 en Amérique latine, les États ont fait de la disparition forcée une modalité de répression pour éliminer les opposants. En Colombie, les disparitions forcées ne sont pas nées du conflit armé.
Mais tous les acteurs armés en useront par la suite, à commencer par les paramilitaires d'extrême droite. La guérilla, elle, pratique les enlèvements contre rançon à grande échelle. Des centaines d'otages ne sont jamais revenus de la jungle. C'est le cas du père et de la mère d'Hector Angulo, enlevés en l'an 2000 par le front 53 des FARC. Ils avaient 68 ans. Dans un centre commercial de Bogota, Hector raconte les années de calvaire à chercher ses vieux parents par monts et par veaux. Il a donné beaucoup d'argent à des guérilleros peu scrupuleux. Le processus de paix engagé avec ces FARC qui ont enlevé et tué son père et sa mère sans jamais rendre les corps est évidemment pour lui difficile à accepter, douloureux.
Il faut parler, oui. Faut-il pardonner ? Mon Dieu, aidez-moi à pardonner. Mais bon, malgré tout, je préfère voir ces types assis à une table en train de boire du whisky qu'une arme au poing en train de tirer.
L'accord de paix avec les FARC a prévu la mise en place d'une unité de recherche des personnes disparues. Joël Kuhn du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, se félicite de l'existence de cette nouvelle instance.
La définition en tout cas du mandat permet que l'unité puisse commencer à chercher toutes les personnes disparues en relation avec le conflit. Donc il n'y a pas de temporalité. C'est-à-dire que cette unité aura la capacité de travailler sur tous les disparus du conflit pendant toute la période de conflit.
En clair, les ex-guerrilleros ne sont pas les seuls qui devront rendre des comptes, les militaires aussi, mais le problème en Colombie est de faire appliquer les textes. La que está gritando, sur la place de las Nieves, Andy Espitia ne se fait pas d'illusions. Son frère Edwin a disparu alors qu'il faisait son service militaire en 2015. L'armée dit qu'il aurait tenté de s'échapper. Andy n'en croit rien.
Tout indique que le capitaine a tué mon frère. Trois de ses camarades ont donné la même version. Mais évidemment, ils ont peur de parler. En Colombie, il est très difficile d'obtenir justice. Il y a beaucoup, beaucoup de corruption.
L'autre grand problème, c'est évidemment l'indifférence. La Colombie a tant de blessures à soigner que les personnes disparues ne pèsent pas lourd. Elles ne sont qu'un drame parmi d'autres. Le CICR vient de mettre en place une campagne intitulée « Ici, il manque quelqu'un » pour faire pression sur les pouvoirs publics et sur l'opinion publique. Joël Kuhn.
Je pense qu'en Colombie, il y a une invisibilisation ou une négation du phénomène. C'est-à-dire que les Colombiens ne se rendent pas compte du tout de, bon, premièrement, l'ampleur de la disparition et des conséquences sur les familles. Et c'est là, je pense, où le CICR a vraiment un rôle avec les autorités, mais aussi avec la société civile et les organisations de victimes. C'est faire reconnaître la souffrance, non ?
La paix ne ramènera pas les personnes disparues.
Marie-Ève Deteuf pour le reportage. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez dans Un jour dans le monde. On reste en Colombie, mais sur un tout autre tempo. C'est parti.
Fue que tuvo querella y se puso a esos astros cómo brillan cuando reflejan el sol y el rojo de su color como adornan.
Le groupe s'appelle Onda Tropica, la chanson Bogota.
France Inter.
Previously.
Dans l'épisode précédent. Fabienne Saint-Pès.
Précédemment.
Previously.
Previously.
Previously.
Un jour dans le monde.
Allez, l'actu en série de jeudi. Retour sur les épisodes précédents que sont devenus ceux qui ont fait l'actu internationale et dont on n'a plus de nouvelles. Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Et vous êtes d'humeur polissonne ce soir. Olivier, votre sujet du jour, comment va Juan Carlos ?
Juan Carlos est en pleine reconquête, Fabienne. Je ne vous parle pas du trône, mais bien de l'une des 5000 maîtresses qu'il aurait fréquentées tout au long de sa vie. C'est beaucoup, beaucoup. Le quotidien britannique Times l'a même qualifié cet été.
Un peu très onctueux, si je puis me permettre.
D'accro... Alors, attendez, attendez. Il y a des calculs de faits, d'accro au sexe, tout cela sur la foi d'une biographie non autorisée à paraître dans les jours qui viennent. Un ouvrage assez singulier qui est en réalité une sorte de catalogue listant toutes les romances de Juan Carlos depuis son plus jeune âge. L'auteur du « Roi aux 5000 maîtresses », Amadeo Martinez Inglés, est un ancien colonel de l'armée espagnole.
« Son 4786 amantes, non ?
4786 maîtresses, c'est le chiffre exact. Je le sais parce que j'ai compilé pendant des années les informations des services secrets. Juan Carlos de Bourbon a toujours été un homme très surveillé, très espionné. Quand il était jeune, ses propres camarades rédigeaient des notes confidentielles qui, par le biais de la chaîne de renseignement, arrivaient jusqu'à Franco.
Voilà, et comme tous les bons dictateurs, Franco était le premier à être mis au courant.
Et il découvre cet effarant appétit sexuel du futur roi lorsqu'il était à l'académie militaire, une période passionnelle qui va atteindre son apogée, paraît-il, au cours des 20 premières années de son règne. Un très sérieux journaliste blogueur espagnol a même fait ce calcul un peu sordide de la moyenne des conquêtes de Juan Carlos à cette époque, une moyenne de 125 maîtresses par an, ça fait à peu près 4 par semaine, j'ai fait un nouveau calcul. Même quand on est roi, difficile avec un tel agenda de passer inaperçu. Les liaisons de Juan Carlos ont toujours en fait été un secret de polichinelle et certaines ont visiblement coûté très cher. Depuis qu'il a abdiqué, les comptes se règlent et les indiscrétions finissent par fuiter, comme en janvier dernier, lorsque ressurgit son histoire avec la sulfureuse présentatrice de télévision Barbara Rey, dont le fils, c'est très élégant, enregistrait tous les rendez-vous de sa mère avec le roi.
L'histoire de ces rencontres enregistrées a connu un rebondissement cette semaine avec la révélation du numéro de compte bancaire sur lequel Barbara Rey aurait reçu de l'argent en échange de son silence. Durant toutes les années de cette liaison, Barbara Rey aurait reçu tous les mois des fonds secrets du ministère de l'Intérieur entre 1 et 2 millions de pesetas.
Et alors, parce qu'on a perdu la mémoire, 1 ou 2 millions de pesetas en euros, ça fait combien ?
Bah, c'est grosso modo entre 6 000 et 12 000 euros tous les mois. Barbara Rey aura coûté au total plus de 3 millions d'euros au contribuable espagnol. Juan Carlos aurait même tout mélangé, sexe, argent public et affaires d'État avec Corina Wittgenstein, explique l'écrivain Manuel Galliana.
Ça a été l'un de ses derniers écarts médiatisés, où l'on a appris qu'elle l'avait accompagné dans plusieurs voyages, notamment celui de la chasse à l'éléphant au Botswana. Mais après, au-delà de leur liaison, elle aurait eu le rôle officieux d'une sorte de ministre plénipotentiaire pour des contrats avec des pays arabes. Sur ce thème des femmes de Juan Carlos, il semblerait qu'il y ait eu une forme de népotisme de sa part, en plaçant certaines à la télévision ou en favorisant leur carrière et en général, ses relations sollicitées, les services secrets, la sécurité, avec l'argent de la présidence et du gouvernement.
Incorrigible Juan Carlos qui fêtera bientôt ses 80 ans, Fabienne. Il boite, avance le dos voûté, mais il est encore en pleine forme et ne se cache absolument plus puisqu'il a été aperçu cet été en Irlande en compagnie de Marta Gaya, l'une de ses maîtresses historiques, alors que la reine Sophia était-elle seule à Majorque, qu'elle aura passé 55 ans à subir les infidélités de son mari qui, malgré tout, ne l'a pas oublié lors de son discours d'abdication le 2 juin 2014.
Je voulais exprimer toute ma gratitude à la reine, dont l'aide et le soutien ne m'ont jamais manqué.
On comprend voilà, la gratitude.
Généreuse et indulgente, hein, la reine Sophia qui envisagerait, dit-on, assez sérieusement de divorcer.
Bah, écoutez, il serait peut-être temps. Ouais. Merci beaucoup, Olivier Poujade, dans Un jour dans le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le vrai du faux de l'Europe et Delphine Simon. Bonsoir Delphine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Ce soir Delphine, on refait le match France-Allemagne une fois de plus à propos des travailleurs pauvres. Écoutez d'abord ce qu'en disait la sociologue Dominique Médas et l'ancienne conseillère de Benoît Hamon et c'était sur France Inter.
En Allemagne, taux de pauvreté des salariés en Allemagne, 23%. Contre 8% en France. C'est énorme, 23%.
Donc le taux de pauvreté chez les salariés, presque trois fois plus élevé en Allemagne qu'en France. Delphine, c'est vrai ou c'est faux?
C'est plutôt faux, Fabienne. Dominique Méda confond deux indicateurs, le taux de pauvreté des travailleurs et leur niveau de salaire. Le taux de pauvreté, ça prend en compte tous les revenus, aides sociales comprises, et ça correspond à la proportion de travailleurs dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Si on regarde cet indicateur, eh bien l'écart entre la France et l'Allemagne, il est assez serré. L'Institut des statistiques européennes Eurostat a fait les comptes. Environ 8% en France contre 10% en Allemagne. On est donc bien loin du chiffre avancé par Dominique Méda. L'écart des deux côtés du Rhin, il est de 2 points et non de 15.
Donc vous dites qu'il se trompe complètement?
Oui, en fait, Dominique Méda, elle fait allusion à un autre indicateur. La proportion, oui, des petits salaires. On a un petit salaire. Fabienne, lorsqu'on gagne moins des deux tiers du salaire horaire brut médian, en France, la proportion de ces petits salaires, elle est plutôt faible. 9% contre 23% en Allemagne. De ce point de vue, Dominique Méda a raison. C'est vrai que l'écart est énorme.
Et ça s'explique comment?
En fait, c'est dû en bonne partie au temps partiel et au mini-job qui se multiplient en Allemagne depuis 12 ans, depuis les fameuses réformes Hartz, les réformes du marché du travail mises en place par le chancelier Gerhard Schröder. Aujourd'hui, on compte 8 millions de ces mini-jobs outre-Rhin. Dominique Méda, qui a lu les ordonnances, s'appuie sur ce chiffre pour dénoncer les risques des réformes du Code du travail en France. Sauf qu'avoir un petit salaire, ça ne veut pas dire forcément, Fabienne, qu'on est pauvre. Le salaire, ce n'est qu'une composante de vos revenus. Il faut y ajouter les prestations sociales, le patrimoine ou encore les revenus de votre conjoint. Bref, difficile d'en tirer des conclusions sur le taux de pauvreté comme le fait Dominique Méda. Dans l'ensemble, c'est donc plutôt un faux.
Alors ce débat des travailleurs pauvres, il agite beaucoup la droite, la gauche, en France comme en Allemagne. Au final, la pauvreté est la plus forte où? Donc en France ou en Allemagne?
C'est assez difficile de trancher, mais c'est vrai que cette question, elle revient très régulièrement. En pleine campagne électorale en Allemagne, c'est un argument pour le candidat SPD Martin Schulz qui veut adoucir ces lois Hartz. En fait, le taux de pauvreté, c'est un concept assez délicat à manier. Les experts ne parlent pas de pauvres, ils parlent de personnes menacées de pauvreté. Difficile aussi de comparer car le coût de la vie, il est très différent des deux côtés du Rhin. Le poids du budget logement, par exemple, n'est pas le même pour les ménages. Les prix de l'immobilier ont quasiment doublé en France depuis 20 ans, alors qu'ils stagnent complètement en Allemagne. En clair, Fabienne, comparaison n'est pas raison.
Delphine Simon, et vaste débat Delphine, dont on reparlera d'ailleurs dans Un jour dans le monde, puisque jeudi prochain nous sommes en Allemagne avant les élections pour un 18-20 spécial et le sujet forcément reviendra sur le tapis. Il est 18h55 dans Un jour dans le monde, l'édito du journal Le Monde, signé Corinne Laine ce soir depuis San Francisco. Bonjour Corinne.
Bonjour Fabienne.
Corinne, on sait que Donald Trump a décidé le 5 septembre dernier de mettre fin au programme 2012 qui octroie une autorisation de séjour temporaire aux jeunes sans-papiers arrivés dans les bagages de leurs parents, donc les Dreamers qu'on a appris à connaître. Une décision qui passe mal, mais particulièrement mal, Corinne, dans la Californie où vous êtes.
En effet, l'État de la côte ouest a pris la tête de la rébellion et pour cause sur les 800 000 jeunes concernés par cette décision de Trump, 220 000 se trouvent en Californie. Un Dreamer sur quatre, autrement dit, dans la seule université de Californie, sont plus de 4 000 étudiants à bénéficier de ce statut. Pour les Californiens, cette menace qui pèse sur les jeunes est un crève-cœur depuis que Barack Obama leur a permis de sortir de la clandestinité. Les Dreamers sont très engagés dans la communauté. On les croise dans les associations, dans les syndicats. Ils défendent leurs parents grâce à leur maîtrise de l'anglais. Et Trump veut les renvoyer dans un pays, le Mexique généralement, qu'ils ne connaissent même pas. En Californie, l'immigration est une question existentielle. 27% des habitants sont nés à l'étranger, les Blancs sont plus majoritaires, et depuis 2 ans, ils sont même moins nombreux que les Latinos. Bref, c'est l'Amérique de demain, mélangée, multiculturelle, le scénario qui donne quelques cauchemars aux amis de Donald Trump.
Mais alors, que peut faire l'État de Californie, Corinne?
Alors Donald Trump a laissé un délai de 6 mois au Congrès pour essayer de légiférer avant l'abrogation du statut. Depuis, c'est la ruée sur les services d'immigration. Les jeunes essayent de bénéficier d'un dernier renouvellement de leur titre de séjour avant la suppression. Mais encore faut-il réunir les $495 de frais de dossier, une somme considérable pour la plupart des familles. Mardi, le gouverneur de Californie et les parlementaires ont pris des mesures d'urgence. $30 millions ont été débloqués pour aider les jeunes Dreamers à renouveler leur statut. On voit des publicités sur les réseaux sociaux. Les associations proposent de financer les frais de dossier. Comme l'a dit le président du Sénat, Kevin DeLeon, il n'est pas question de laisser les tendances xénophobes d'un individu, comprenez Trump, remettre en question les progrès accomplis en Californie pour intégrer les migrants.
Et Corinne, ce n'est pas le seul geste des anti-Trump de Californie.
Non, en effet, le gouverneur Jerry Brown vient aussi de déposer une nouvelle plainte en compagnie de 3 autres États. Leur reproche, Donald Trump a trahi la confiance que les Dreamers plaçaient dans le gouvernement. Pour obtenir leur régularisation, les jeunes ont en effet accepté de fournir leur adresse et leurs empreintes digitales aux autorités. Et maintenant, la police de l'immigration n'a plus qu'à les cueillir chez eux ou à la sortie de l'université si elle veut les expulser. Et plus généralement, les responsables californiens réclament un droit d'exception sur l'immigration. Dans les années 70, quand l'État était accablé par la pollution automobile, il avait obtenu le droit de réglementer lui-même la qualité de l'air. Et c'est cela qui lui a permis d'être aujourd'hui à l'avant-garde sur l'environnement. Il réclame aujourd'hui le même exceptionnalisme sur l'immigration. Parmi les idées, la création d'un statut de résident du Golden State, par exemple, qui ne serait pas valable dans le reste des États-Unis. Trump ou pas, la Californie entend rester le pays de ceux qui rêvent, dont bien sûr les Dreamers.
Corinne Lane du journal Le Monde dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.